Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons le fondateur d'Officine Générale, Pierre Mayot. Bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir parce que votre marque a célébré ses 10 ans. Enfin, oui. Célébré, vous dites que c'est pas vraiment une célébration, c'est le courant de la vie d'Officine Générale, mais quand même pour une marque qui défile, parisienne, établie, 10 ans, c'est déjà un cap intéressant.
C'est un cap intéressant, on s'en rend pas compte, ça arrive plus vite qu'on le croit. Pas de célébration excessive parce que c'est ce que je disais dans la note d'intention. Je pense que vous faites référence au défilé où on n'est pas, on n'a pas fait de fête particulière ou de soirée spéciale. Le cadeau de ces 10 ans, je pense, c'est que la marque se porte bien et qu'on puisse. C'est surtout le rythme des ouvertures actuelles, ouverture retail. Qui est un peu le cadeau de 10 ans de travail, aussi bien pour les équipes que pour moi. Je pense que c'est là le plus important pour nous en ce moment, en tout cas, et là où est tout le focus.
Vous l'avez dit, Officine Générale est une marque qui défile au calendrier de Paris depuis de nombreuses années maintenant.
Ouais.
Pourtant, par rapport aux grands groupes qui ont des grosses machines bien établies, par rapport à des marques très créatives, le style Officine Générale est plus discret, plus sur une maîtrise du porté, du tailor. Okay. Comment vous définissez le style et comment vous expliquez d'être encore là après 10 ans?
Alors, on a la chance d'être dans une semaine de la mode parisienne qui est certainement la plus regardée, la plus épiée et la plus vue au monde. Malheureusement, Londres a quasiment disparu. New York, pour l'homme, existe plus. Milan tient encore. Mais c'est là où Paris concentre le nombre de marques les plus intéressantes, aussi bien au niveau des grands groupes que des jeunes créateurs, les nouveaux entrants dans le calendrier. Il y a un travail assez formidable de fond qui est fait depuis des années. On a démarré en 2014 sous forme de présentation et donc des tableaux avec des mannequins avec des vrais mannequins bien évidemment, c'était pas sur Stockman. Et très vite quand on fait des présentations, on vous dit c'est bien mais un vêtement c'est mieux quand ça bouge. Donc après 2 ou 3 présentations, on est passé en format défilé et se posait la question souvent au départ de finalement la normalité du produit par rapport au propos d'un défilé. Ça, c'était la question qui revenait très souvent après les défilés, dans les interviews ou même quand j'avais des interviews, on me disait mais le produit est tout à fait normal, donc a-t-il sa place dans une semaine de la mode parisienne? Et très vite, je me suis aperçu que je comprends le débat.
Oui, parce que Officine Générale. Surtout en 2014-2015, mm-hmm. De beaux costumes, de belles matières, de belles chemises.
Ouais, c'est un peu de tout. Enfin, il y a pas, c'est pas que des costumes, c'est des vestes, c'est des manteaux, c'est du cuir, c'est de l'outerwear. Mais c'est une collection complète vu qu'on présente, on a à peu près toutes les catégories de produits. Mais la réponse finalement vient des critiques et de la presse elle-même. Elle parle de bouffée d'air pur, de normalité, de vêtements portables, donc la réponse ils l'ont finalement donné. Quand je dis ils, c'est la presse qui me posait ces questions et avec une caractéristique moi dont je suis assez fier, c'est 98% des vêtements qui défilent sont dans notre showroom et se retrouvent. Alors après, nous, on édite parce qu'on a une collection un peu plus large que ce qu'on achète pour nos boutiques, mais je veux dire 80 ou 90% des vêtements qui ont défilé en juin dernier seront dans nos boutiques en février et mars prochain. Donc c'est aussi pas, il n'y a pas un travail. Je dirais de défilé, de stylisme poussé ou de création de pièces particulières. Il y a un point de vue qui se défend saison après saison et qui est une évolution de ce qu'a été Officine Générale et ce qu'est Officine Générale depuis ses débuts. de pas trahir son ADN et vraiment de travailler le travail. Et je le dis souvent, c'est faire évoluer une veste bleu marine saison après saison. C'est travailler sur la coupe, c'est travailler sur le volume, sur la forme des pantalons, mais pas de c'est pas un exercice pour moi de style où on doit s'inventer une identité ou s'inventer un propos. Le propos, il est là, il est clair, il est net, et il n'est pas question de le travestir parce qu'on présente ses collections pendant la semaine de la mode.
On se projettera un petit peu après. Ouais. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez un peu aussi comment, d'où viennent ces certitudes, je ne sais pas, mais en tout cas, votre vision de la mode, où est-ce que vous l'avez forgée? Vous, j'ai lu que vous avez et vous le revendiquez assez régulièrement, vous avez des origines bretonnes, vous n'êtes pas forcément pur parisien dans l'approche. Quels sont les ingrédients que vous avez dans votre histoire, dans le tissu familial, qui vous ont amené à construire la marque comme elle est aujourd'hui?
Alors oui, je suis né en Bretagne. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et après, je suis venu vivre à Paris et en région parisienne. C'est très ancré parce que déjà, c'est une marque qui est très personnelle. Je porte pas d'autres marques. Non pas que j'aime pas d'autres créateurs ou d'autres marques, il y a des produits que j'aime bien, mais comme je fais ce que j'aime normalement, je suis pas amené à consommer d'autres produits que mes produits. Et comme ils durent, j'en consomme pas énormément en plus, et comme je me dis toujours pareil, j'en consomme encore moins. Donc finalement, c'est un propos qui est assez personnel. C'est lié à mon enfance. Je suis né dans une famille d'ostréiculteurs. Mon père, mon grand-père, son arrière-grand-père était ostréiculteur. Donc des vêtements de travail beaucoup. Alors il y a le cliché du ciré bien évidemment, mais ça je joue pas trop dessus. Mm-hmm. Mais il y a surtout le lavage. Ça c'est un élément très important. Donc c'est du chino, c'est du denim, c'est du chambray, c'était de l'Oxford, parce que mon père quand il mettait une chemise c'était de l'Oxford a priori. C'est peu de matières, mais c'est des matières qui durent, qui vieillissent, qui sont un peu épaisses, qui vieillissent et qui passent avec le temps, avec les embruns, avec le soleil. Et de l'autre côté, mon grand-père paternel était tailleur et il avait des magasins de tissus. Et donc lui, c'était tout l'opposé. C'était costume, voire costume trois pièces tous les jours, du lundi au dimanche, même pour aller chercher son pain ou aller prendre son café le dimanche. Il avait porté un costume et une cravate. Et il avait une maison avec un grand jardin. Et quand il faisait son jardin ou quand il travaillait dans son potager, il avait un vieux costume et une dress shirt sans cravate. Voilà. C'était le seul moment.
D'accord.
Et c'était assez marquant. Et j'avais donc un côté tout à fait downdressed, de chino, de chemise, voire de t-shirt, et de l'autre côté quelque chose de très 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 habillé avec une grande connaissance de la matière, avec un dressing, avec des costumes d'été classés par couleur, la même chose quasiment en hiver avec les flanelles, les serges de laine du plus clair au plus foncé, les cravates qui allaient avec l'hiver.
C'est lui qui vous a donné l'envie, ou c'est l'observation?
Je pense pas qu'il m'ait réellement donné l'envie. Je pense qu'il m'a j'ai touché, il m'a montré des tissus, il m'expliquait ce qu'était un camélaire, ce qu'était un cachemire. C'est surtout l'observation, je pense. C'est des images qui restent. Je pense quand on a un père architecte ou un grand-père architecte, on regarde des perspectives, on regarde des maisons, des immeubles, des proportions. Moi, j'ai vu finalement des gammes de couleurs déjà. Et si je regarde mon dressing aujourd'hui, il est peu ou prou classé un peu comme celui de mon grand-père, sauf D'accord. que j'ai plus de jeans et moins de. Enfin, j'ai tout, mais j'aime bien. Je les classe par couleur aussi. J'ai cette déformation où j'ai des piles de t-shirts blancs, des piles de t-shirts gris, les pulls ensemble classés d'une certaine. Parce que c'est plus facile pour moi de les trouver. Tout simplement, je suis pas un maniaque de la couleur et du rangement.
C'est un côté pragmatique.
C'est un côté très pragmatique, ouais. Et voilà, quand j'ai créé Officine Générale, c'était vraiment, c'était vraiment jouer sur cet ADN, en aucun cas trahir le propos. Alors, toutes les personnes qui montent leur marque disent ou écrivent à un moment donné qu'ils voulaient faire le produit qu'ils aimaient. Mais là, c'était réellement un propos, et c'était dans le cahier des charges. Il y avait l'envie de pour la première fois pouvoir avoir un champ libre, parce que quand on travaille pour d'autres marques, on travaille forcément avec les idées, avec l'ADN ou avec le cahier des charges d'une direction ou d'un fondateur. Et quand on est seul devant sa copie, on n'a pas à se référer à qui que ce soit. C'est ce qu'on a dans les tripes et c'est ce qu'on a envie de faire.
Vous aviez toujours eu envie de créer du vêtement, de travailler la matière?
Alors, j'ai toujours eu envie, mais quand on travaille pour une autre marque, quand on le fait pour d'autres, on travaille aussi le vêtement, on crée la matière. Mais j'avais une date dans ma tête, j'avais 32 ans, très jeune, il fallait que j'ai démarré quelque
D'accord.
chose d'un point de vue entrepreneurial, démarrer une aventure, créer quelque chose. Bon, je l'ai fait à 37,
ouais.
Donc j'avais 5 ans de retard.
Mais c'est pas si mal.
Je suis beaucoup sorti, donc c'était peut-être j'ai perdu un peu de temps la nuit, je pense. J'avais cette envie, au-delà de créer des produits, j'avais envie de cette aventure entrepreneuriale. J'avais envie de... Alors ça paraît avec le recul, c'est pas aussi. J'avais cette envie de liberté.
Mmh.
C'est une véritable liberté de pouvoir décider de son temps, de la façon dont on gère son temps, de ses décisions, de vivre avec ses décisions. On se trompe ou on réussit, mais c'était cette vérité que j'avais envie d'aller titiller.
Vous avez travaillé avant dans des grandes maisons italiennes, c'est ça?
Italiennes, françaises. Mmh. J'ai fait une sorte de compagnonnage.
D'accord.
J'ai fait une école de mode qui a duré 24 heures, je pense, parce que je me suis retrouvé en désaccord total. Enfin, pas en désaccord. Je pense que j'étais trop impatient par rapport à ce qu'on me proposait et je me suis inscrit. Je savais que c'était une connerie. Je savais que j'avais besoin du terrain. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin d'aller plus vite. Et j'avais l'impression, j'ai eu le sentiment que j'allais perdre mon temps et qu'il fallait mieux que je m'auto-forme en travaillant. Plutôt que d'apprendre du théorique et de le mettre en pratique.
Mais alors, si on fait pas l'école de mode, comment on fait? Comment
on fait pour apprendre? On fait en se débrouillant. J'ai d'abord commencé. J'ai travaillé dans une boutique. J'ai été responsable d'une boutique. J'ai travaillé avec Michel Barnes, qui était un tailleur parisien. Donc, j'avais déjà un certain langage qui lui correspondait. Il m'a demandé de travailler sur les collections. J'ai travaillé avec lui sur les collections. Après, je suis parti. J'ai travaillé pour une autre marque. Et de fil en aiguille, je suis allé chercher du tailoring, du un peu plus lavé, de l'étranger, une vision à l'international, un marché américain. Enfin, j'ai vraiment essayé. Et pas parce qu'il y a le retail a été très formateur et je suis hyper content de l'avoir fait parce qu'on apprend à comprendre un client. On apprend à écouter, à comprendre une silhouette, à voir qu'il y a des gabarits qui sont largement différents et tout peut pas aller à tout le monde. Donc, c'est savoir ce qu'on veut faire et là où on veut amener son produit. On peut pas plaire à tout le monde. Déjà, c'est un peu utopiste et vulgaire, je dirais, de vouloir plaire à tout le monde. Il faut savoir prendre son parti et s'y tenir. Et donc, ça m'a permis après de varier les différentes expériences d'un point de vue technique, d'un point de vue commercial, de me confronter à des stratégies de développement. Je pense que c'est toute l'expérience. C'est qu'on sait peut-être pas forcément ce qu'on veut, mais on sait en tout cas ce qu'on veut pas. C'est là où on évolue, c'est là où on grandit, c'est en sachant, je pense, mettre des croix en disant non mais ça, cette façon de faire, cette façon de gérer, cette façon de penser, cette façon de développer, c'est pas pour moi parce que je vois très bien qu'ils y arriveront pas.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vous avez eu des rencontres, j'imagine, dans votre parcours dans ces maisons-là. Mais finalement, vous avez aussi construit dans différents corps de métier au sein du secteur. C'est pas juste un créatif qui vous a inspiré et montré la voie. Vous avez composé votre propre palette de couleurs avec ces rencontres.
Absolument. Et je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait de façon, enfin, au départ, je l'ai pas fait de façon tout à fait consciente. Ça a été plus les aléas de la vie dans les premières années qui m'ont amené à changer c'était peut-être des envies de faire autre chose. Je me lassais peut-être un peu rapidement, et très vite, j'ai vu que d'aller chercher des expériences nouvelle allait être forcément enrichissante, et j'allais toujours apprendre et retenir quelque chose. Même dans les années qui m'ont le moins plu, j'ai finalement énormément appris, et c'est peut-être là où j'ai le plus appris, c'est-à-dire en me confrontant à une réalité qui me plaisait pas. Ça m'a permis de vraiment choisir, de faire des choix qui étaient philosophiques par rapport à des lieux de production, par rapport à ce que j'ai vu sur place, par rapport à des usines que j'ai pu visiter en Asie notamment, qui m'ont largement motivé pour ne plus aller travailler dans certaines zones géographiques, ou ne plus faire voyager du tissu, ou avoir une vision plus locale et plus européenne d'un développement et de la vie de son produit finalement. Donc c'est peut-être pas les expériences les plus heureuses qui vous forment le plus. C'est ce qui était, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens, c'est ce que je retiens.
Et finalement, ces 5 années en plus dans ces expériences-là, elles étaient peut-être intéressantes pour lancer le projet?
Elles m'ont permis d'arriver, à la conclusion que je pouvais plus continuer à exercer pour d'autres, que c'était quelque chose qui m'apportait plus rien, que j'enlevais mon casque et ma tête partait avec, et je réfléchissais plus, j'étais devenu un peu un automate. Et donc j'ai arrêté, j'ai faussement cherché un nouveau travail, une nouvelle voie, et ma femme m'a dit que j'avais pas, alors je vais le dire sans être vulgaire, le courage de me lancer, mais c'était la seule chose qui finalement aurait du sens, et c'est ce que j'ai fini par faire en l'écoutant et en la remerciant.
Donc du coup, le coup de pied, le coup de démarrage, c'est grâce à elle.
Le coup de démarrage, ouais, la confrontation, ouais. Il y a une confrontation, et elle avait 100% raison. C'est elle qui me pousse un peu dans mes retranchements, en me disant: tu vas juste répéter le même schéma si tu continues comme ça. Donc tu sais pas, ça marchera peut-être pas, mais c'est au moins lance et essaye. Et comme j'avais cette date, j'avais cette envie, j'ai démarré. Voilà.
Je me suis plongé un peu dans les premières interviews que vous aviez données, quelques-unes. Ce qui était assez marquant, je trouvais, pour une jeune marque qui se lançait, c'est qu'il y avait déjà le propos sur la rigueur de la gestion. Il y avait déjà une vision de, pour bien faire les choses sur les matériaux, pour bien faire les choses sur la manière dont on produit et dont on construit la collection, il faut avoir la rigueur. Ça a été une ligne directrice sur le comment on lance une marque pour qu'elle dure, je sais pas, mais en tout cas pour qu'elle dure plus de 2-3 saisons.
Très vite, j'ai touché du doigt que la rigueur allait être nécessaire. Il y a déjà, on a une société, donc on doit tenir des comptes. On doit pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, ce qui est la majorité, ce qui est l'erreur que font beaucoup de jeunes entrepreneurs, où ils voient un chiffre d'affaires, mais ils regardent pas ce qui reste en bas de ligne.
Oui, le chiffre d'affaires peut monter vite, mais la rentabilité n'est pas forcément là.
Oui, et on est dans un métier où il y a évidemment un tableau dans lequel on répertorie l'intégralité des coûts de transport, et on doit les impacter quelque part. Sinon, on a une mauvaise vision, un mauvais calcul de sa marge. Et la marge veut dire ce qui reste en fin d'année en général. J'ai pas fait cette erreur-là. J'ai démarré tout seul et je suis resté un an et demi seul, mais vraiment un an et demi seul, c'est-à-dire que j'avais personne. J'ai démarré de chez moi, j'ai travaillé de chez moi, j'ai fait la première production de chez moi, j'ai demandé à ma femme et de partir avec mes enfants parce que je savais qu'un ouragan de carton allait arriver et que j'allais transformer mon appartement en warehouse, ce qui s'est passé la première année et la première saison en tout cas. Et j'ai pris une directrice financière externalisée. Et j'ai essayé de mettre en place des bases. Enfin, j'ai mis en place. En tout cas, j'ai pas fait d'erreur de gestion. Et la rigueur, elle doit être présente. Quand on est seul, on peut pas se permettre de repousser en lendemain et de dire ça, je le ferai pas, ou ça, je le ferai comme ça, ou ça, ça peut être fait de façon approximative. C'est impossible. On doit être, Et c'est là où il faut être capable de faire son plan de collection, d'être critique par rapport à ce qu'on fait, de commercialement savoir vendre et trouver les mots pour expliquer son produit, de convaincre un attaché de presse, la fédération, quand on veut intégrer un calendrier, de délivrer commercialement. C'est chargé, c'est un peu une petite armée à mettre en mode de bataille, sauf qu'il y a un combattant.
Oui, c'est ça. Et justement, les angles d'attaque de cette armée, vous aviez dès le début défini quand même, vous en parliez tout à l'heure, de la production, du sourcing des matières, assez clairement en disant, voilà, je veux tel type de matière, je veux tel type de production, et ça va se passer comme ça. C'était pas forcément, il y a 10 ans, aller produire au Portugal ou en tout cas choisir une certaine qualité de matière, c'était pas forcément dans les us. Vous avez aussi un peu exploré ce champ-là.
Alors c'était pas très courant il y a 10 ans. Je suis heureux que ce soit le même concept et les mêmes valeurs qui soient toujours en place, parce que ce qu'on entend et ce qu'on lit, c'est que quand on grossit, en général, c'est la première chose qui est coupée, c'est la qualité. Elle est souvent mise à mal au fur et à mesure où la marque se développe. Donc, c'était pas du tout ne portant que ce produit. J'avais pas envie de me mentir et c'est pas à l'ordre du jour et ça ne sera pas tant que je serai à la barre de cette société. Donc, l'idée c'était il y avait une notion de circuit court. J'avais défini des qualités. Il se trouvait que c'était des tissus italiens, anglais, japonais, certains espagnols aussi. Je voulais que ces tissus soient produits en Europe. La seule entorse, c'était le Japon, mais je trouvais pas. Je suis vraiment allé chercher au Japon ce que je trouvais pas en Europe. Des dénimes, des carreaux particuliers, certains jerseys très précis pour des t-shirts. Et l'idée était donc de produire en Europe. En Italie d'abord et puis au Portugal ensuite. Pourquoi en Italie ? Parce qu'en faisant des calculs rapides, je sortais un positionnement prix qui me convenait pas vraiment. Je voulais il fallait que je baisse dans mon choix de matière pour être au prix auquel je voulais arriver. Donc la seule solution, c'était d'avoir un prix de façon qui soit légèrement, qui soit inférieur, de gagner sur la façon pour pas toucher à la qualité du tissu. Et si vous regardez à l'époque, en tout cas, parce que ça a beaucoup évolué depuis, une usine italienne et une usine portugaise, en gros, vous avez les mêmes machines, vous avez la même coupe, vous avez à peu près tous les ingrédients. Il manquait à cette époque la culture produit. Il y avait un héritage italien dans les usines de tailoring notamment, qui était très fort, très marqué, où quand on parle de la souplesse d'une épaule, de plis à la manche, de hausse de pantalon, etc., etc., la réponse sort de façon instinctive parce qu'ils le font, ils la connaissent ou ils l'ont fait. Quand vous arrivez au Portugal, quand vous parlez de la souplesse de l'épaule, quand vous dites que c'est ce qu'il faut arriver, ou l'entoilage qui est un peu trop trop raide. Il y avait un peu de latence. Il fallait beaucoup travailler sur le produit, beaucoup faire et refaire pour arriver là où je voulais arriver. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé pendant des mois, quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours, de façon à mettre au point le produit. Et une fois que le produit était au point, et j'étais bon pour démarrer, ça m'a permis de me positionner dans, je dirais, à l'époque, une espèce de trou dans le marché entre un prêt-à-porter fabriqué un peu partout et des marques un peu plus luxueuses. J'ai toujours refusé le nom de luxe abordable parce que c'est pas du luxe et c'est pas abordable. Abordable, ça voudrait dire autre chose. On a un prix. Et donc, je me suis pas mis dans les roues de certains fonds qui ont utilisé ce terme avec beaucoup de répétition, on va dire. Le produit avant tout et la qualité avant tout. C'était très important de travailler et de mettre au point ces produits à leur prix le plus juste.
Ce travail-là, il a porté ses fruits. Vous avez eu une reconnaissance finalement assez rapide quand même en rentrant sur le marché. Comment vous avez fait grandir la marque et comment, vous le disiez, on arrive à garder son niveau de qualité en voyant ses quantités augmenter, comment on continue de développer la proposition, comment on l'élargit potentiellement en conservant son ADN?
Déjà, on ouvre une première boutique parce que pour moi, une marque sans boutique, c'était un peu une coquille vide. Et j'avais besoin de me confronter. J'aime le retail et j'y crois toujours énormément.
Vous ouvrez là, hein?
J'ouvre pas mal, ouais. Et donc, on a ouvert la première boutique en 2014, donc 2 ans après l'ouverture le démarrage de la marque, ce qui est assez rapide finalement, totalement autofinancé à l'époque. Parce que je faisais du wholesale uniquement. Et quand vous avez un multimarque aussi bon et prestigieux qu'il soit, on a eu la chance de démarrer avec Colette, on a eu Barnes très vite, on a eu le bon marché, on a eu des specialty stores, multimarques, grands magasins, site internet, Mr. Porter assez rapidement aussi, qui à l'époque où tout le monde voulait y être. J'ai eu la chance de pas avoir trop longtemps à attendre pour être dans ces meilleurs points de vente parce que la stratégie était claire, nette et établie. Il fallait pas dire oui au numéro 2 ou au numéro 3, il fallait avoir le numéro 1 et ce dans les plus grosses villes et les meilleurs pays. Après, choisir son angle, j'étais seul donc je pouvais pas attaquer tous les continents. J'ai vu que les capteurs étaient très présents aux États-Unis donc j'ai choisi, c'est un marché que je connaissais plutôt bien, donc j'ai choisi d'accès sur un développement américain et sur les boutiques à Paris. Donc 2014, première boutique. 2016, deuxième boutique. Et première levée de fonds avec la BPI parce qu'on grossit rapidement, mais on avait besoin de structurer. C'était pas one man band, ça existe pas. Je pouvais pas continuer à tout faire tout seul. Donc j'ai construit une équipe autour de moi. Et on a démarré cette deuxième phase de développement. On a ouvert une nouvelle boutique dans le Marais, on a ouvert Londres, on a lancé une collection femme en 2019 et ce qui nous a amené à 2021 et la deuxième levée de fonds.
La levée de fonds, 2020, donc 5 ans entre les deux levées de fonds à peu près. La levée de fonds, vous, ça représente quoi comme outil? Vous n'avez pas fait de levée de fonds où les partenaires ont pris la main sur l'entreprise. Vous restez majoritaire, vous restez aux commandes de l'entreprise. C'est quoi l'utilité quand on a une marque d'avoir ces levées de fonds? Comment vous le travaillez? Parce que c'est aussi une étape que beaucoup de jeunes marques se posent, à quel moment les faire entrer, de quelle manière, quel profil. Comment vous avez travaillé ça?
Alors déjà, il faut aimer ça. Il faut avoir l'envie et il faut comprendre. Vous êtes confronté à des... Euh, à des termes, à un vocabulaire que peu de gens côtoient. Donc il faut être capable de le comprendre et il faut être capable de le gérer. J'ai jamais eu affaire à des banques d'affaires. On a toujours fait, j'ai toujours travaillé avec Vanessa Bonnefou, qui est ma directrice générale aujourd'hui, et un ami avocat. Et quand je dis un ami avocat, c'est très important parce qu'il faut avoir quelqu'un de confiance absolue autour de soi pour pouvoir avancer de façon sereine dans des moments où une levée de fonds, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, il y a des tensions, il y a des négociations, il y a du jeu, il y a du bluff. Enfin bon, il y a une stratégie derrière. Un pacte d'actionnaires, c'est quelque chose de très simple, parce qu'on écrit ce qu'on veut dans un pacte d'actionnaires. Il n'y a pas de pacte d'actionnaires prédéfini. Certains fonds en ont et essayent de vous les faire, de vous les imposer. C'est là où, en général, moi, je suis parti. C'est quand on veut m'imposer des choses qui me conviennent pas. Les discussions se tendent. Je montre pas forcément le meilleur visage de moi-même à ce moment-là parce que j'aime pas être sous la contrainte. Et c'est là où je quitte la table, où la personne qui est venue me voir me dit, bah, finalement, on va pas faire parce que ça m'intéresse pas.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner? C'est quand on trouve un...
Ce qui fait, c'est, alors, il faut trouver un équilibre, bien évidemment. La gouvernance, il était hors de question qu'on me dise tu vas ouvrir des boutiques là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas pas faire de bleu marine mais tu vas faire du gris, tu vas pas faire de l'olive mais tu vas faire du vert bouteille. Bon, c'était où on avait confiance en ce que j'avais commencé de construire et on y croyait et on me laissait développer en me soutenant financièrement et en me donnant les moyens d'ouvrir plus et d'aller plus haut finalement. Ou alors c'était pas le bon investisseur pour moi. Il se trouve qu'on a, c'était très important pour moi de garder la main sur le développement, sur le produit, sur les décisions stratégiques de la société, en allant chercher aussi du conseil. C'est pas que de l'argent une levée de fonds, ça doit être une vision sur un marché, une vision sur une stratégie. C'est un peu un sparring partner. On doit pouvoir échanger, on doit pouvoir échanger de tout et se confronter, c'est là où l'exercice devient intéressant.
Par exemple, vous avez quel échange avec l'équipe d'Untitled? C'est tous les mois, tous les trimestres? Comment ça fonctionne finalement?
On se parle à la demande et de façon très régulière. On échange sur beaucoup de choses. On a mis en place une clôture mensuelle, donc nous on a des résultats mensuels qui remontent, qui donnent lieu à des discussions, à des comparaisons par rapport à un budget qui est établi, à des questions de leur part ou parfois pas de questions parce que c'est clair et ça a été expliqué. On est en plein développement sur le marché américain, donc une stratégie, beaucoup de questions sur la stratégie d'ouverture, sur les lieux, sur le marché qui évolue, qui bouge, des quartiers qui montent. On recherchait à Brooklyn et en visitant ensemble, je lui ai dit mais c'est pas pour nous, la rue, c'est ce qui est en train de se passer, c'est un peu pas parce que Hermès ouvre, qu'il y a un Chanel Beauty qui ouvre et qu'après le mélange de la rue ne me paraît pas être le plus sain pour le moment, et surtout depuis que ces deux anciennes ont monté, les prix ont totalement dévissé, c'est quasiment plus cher qu'à Madison. Donc non, pas de Brooklyn pour le moment. Voilà, donc on échange sur le digital, qui est un gros sujet à l'heure actuelle, sur tous les sujets de façon très ouverte, sans aucune gêne. Et après, on arbitre ensemble en général.
Sur les projets justement. Par exemple, vous avez lancé Daily Classics. Ça, ouais. C'était votre volonté. C'est pas né d'une discussion. Faut étendre l'offre. C'est pas un choix imposé par l'investisseur.
Pas du tout. Pas du tout. C'était une volonté. On avait une ligne qui s'appelait une ligne de permanent qui avait 8 ans. Et juste avant Covid, j'ai décidé de l'arrêter, d'arrêter de la vendre en wholesale. Et on l'a liquidé un peu dans nos boutiques, on l'a laissé vivre dans nos boutiques, on l'a pas recommandé, on l'a pas soldé, on l'a laissé de côté. Et on a repris certains produits de cette ligne que j'ai décidé de ne plus diffuser. de ne plus diffuser parce que c'était des permanents et certains de nos partenaires wholesale avaient tendance à les solder, à les abîmer. Or, pour moi, un jean brut, un jean blanc, un t-shirt bleu blanc, un t-shirt gris chiné, bleu marine, un pull en mérinos fait en Italie avec du fil italien bleu marine, qu'on porte en jauge douce, qu'on porte toute l'année, n'a pas besoin d'être soldé. Il doit pouvoir vivre tout seul.
Il conserve sa valeur entre 2021 et 2022.
Ouais, exact. Donc, c'était pas l'idée, c'était de les protéger. Et de les protéger et de les de faire grossir un peu cette ligne, de changer certains ingrédients. On a aujourd'hui des t-shirts et des sweatshirts qui sont en, qui ont 50% de coton recyclé, 50% de coton organique. On a développé un chino organique en qui nous a pris, mine de rien, quasiment un an, parce qu'entre la provenance du fil, entre le tissage, le lieu, alors on veut faire, je voulais partir avec de l'organique, avec un coton californien, mais si vous le faites venir, c'est par avion, parce qu'autrement, c'est des, enfin, bref, ça voulait plus rien dire, c'était de faire de l'organique qui avait aucune valeur dans la chaîne.
Avec un impact carbone énorme.
Ouais. Mmh. Donc on a choisi le moins grave, le plus proche, parce que c'est pareil, à première vision, il y a 5 ans, on avait un rack de produits organiques. Hein, quand on avait 15 fillers, c'était le maximum. Aujourd'hui, on a un mur entier et des centaines de références, donc on ne sait pas trop d'où vient ce coton organique. Donc on l'a trouvé en Turquie, on l'a fait tisser en Italie, on l'a fabriqué en Portugal, qui était le circuit le plus court. Mmh. Pareil pour les jerseys, pour les cotons et pour les chinos. Donc ça a été aussi très important de se pencher sur à fond sur la construction du produit, du fil au produit fini. On a tout maîtrisé, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, on a deux boutiques. On a une boutique dans le 6e. On a ouvert le mois dernier une boutique dans le 9e, rue Condorcet. Et comme ce produit est assez plain, assez simple, c'est du blanc, c'est du bleu marine, c'est de l'olive, c'est du gris, c'est pas beaucoup de motifs. On le mélange avec un peu de pièces vintage que chine surtout aux États-Unis. J'avais tout un stock que j'avais chiné depuis des années et quand on a ouvert, on en a vendu énormément. Donc maintenant, je pars régulièrement dans mes nombreux voyages aux États-Unis. J'en profite pour sourcer, pour chiner à la pièce et pas au lot parce que je veux pas garder 3 pièces sur 10 et devoir recycler ou jeter les autres. Donc c'est un travail qui est assez long mais que je fais avec beaucoup de plaisir parce que je sais ce que mes clients veulent et donc je leur
Vous allez monter une équipe là-dessus ou c'est un plaisir et un projet perso?
Alors c'est en train de me dépasser. Oui. Mais j'ai pas d'équipe pour le moment donc je continue
à
le
dépasser.
Faire à me déplacer, à remplir des coffres de ça a pas tellement de sens mais je prends beaucoup de plaisir à le faire donc tant que je peux je le fais sur mes week-ends.
Sur les week-ends américains. Sur les heures perdues. Ouais. Sur le développement de la marque, donc un développement de l'offre sur les daily classiques, un développement de la femme aussi.
Ouais.
Dans 5 ans, la marque, vous l'imaginez comment? J'imagine que vous avez quand même un plan de route. Elle va ressembler à quoi la marque Officine Générale dans 4-5 ans?
Elle va ressembler, j'espère, à ce qu'elle est aujourd'hui en mieux, parce que l'idée, c'est toujours de s'améliorer et de continuer à développer. On n'a pas prévu, de bouleversement majeur. J'avais décidé, en 2020-2021, j'avais cette envie d'investir dans le retail. Je crois beaucoup au retail. J'ai lu beaucoup de conneries, on va dire, pendant cette période Covid où le retail était mort, les grands magasins étaient morts, le wholesale était mort. On allait consommer uniquement en ligne et si on n'avait pas un e-shop performant, on n'existait pas. Bon, il se trouve que 2 ans après, on voit que les choses ont quand même largement changé. On va assister pour la première fois à une décroissance mondiale sur l'online, ce qui est quand même un phénomène absolument ahurissant. Sachant tout ce qu'on peut consommer, un billet d'avion, un billet de train, on consomme plus, enfin, il y a plus, on est plus dans un...
On est plus sur du physique, oui.
Non, on est plus sur du physique. C'est quand même assez frappant. Mm-hmm. On voit aussi que tous les gros groupes, les Meta, les Google, arrivent pas à aligner un trimestre de croissance consécutif. Donc c'est quand même un petit changement. En tout cas, un arrêt dans cette croissance effrénée. On a même lu des licenciements il y a pas longtemps chez Meta, pour pas
citer. Chez les grands groupes, oui.
Donc voilà. Donc c'est on comprend pourquoi. Je veux dire, c'est ce marketing digital dont tout le monde s'est un peu jeté à bras le corps coûte très cher, coûte de plus en plus cher et a pas forcément les effets escomptés. Je lisais un article sur les deux chéris des fonds d'investissement américains qui se sont pris revers sur revers. C'est pour pas les citer parce que c'est pas très sympa de taper sur les voisins. Mais voilà, on comprend très bien ce qui se passe. On sait que il y a un mot horrible qui est l'embasement naturel, ce qui est d'ailleurs ouvrir du retail. Quelqu'un vient chez vous, achète un pull, il remplit son nom dans un fichier et il est client. C'est mieux que d'aller essayer d'acheter des clients en ligne qui n'ont pas forcément de... Alors, c'est complémentaire, on va dire.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que vous le disiez tout à l'heure, le digital, l'e-commerce, c'est quand même des développements. Vous avez aussi des activations sur les réseaux sociaux, etc. Donc, comment vous équilibrez ça sur votre stratégie?
C'est une balance. Mm-hmm. C'est une balance. On a fait notre première campagne cet hiver. On était 50% print et outdoor, 50% digital. Je ne crois pas au tout digital. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas développer sans, bien évidemment. Il y a des systèmes de référencement, il y a tout un tas de choses, SEO qui rentrent en jeu. Et il faut bien sûr le faire. Mais je pense que la balance aujourd'hui est en train de s'inverser. Et beaucoup de marques repartent sur des budgets avec des budgets de d'affichage, d'outdoor, de print. Le print n'est pas mort, même s'il a beaucoup souffert. Et le retail, je regardais l'autre jour ces chiffres et 25% de la capitalisation boursière de Paris, c'est des groupes de luxe français, des groupes de luxe qui sont pas forcément réputé et connu pour être les kings de l'online, mais pour être plutôt les kings du retail. Quand on parle d'LVMH, quand on parle de Kering, quand on parle de Hermès, ben c'est trois groupes qui ont toujours été et qui continuent à investir dans le retail et qui ont un online qui est très peu développé. Et c'est 25% de ce qu'est la Bourse de Paris aujourd'hui en termes de capitalisation. Donc c'est assez impressionnant. C'est beau pour la France, c'est beau pour notre industrie aussi, et je pense qu'un plan retail bien développé, bien mené peut être très intéressant, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en continuant à ouvrir en France, en continuant à, on se teste sur la province, on a ouvert Aix-en-Provence cet été et on ouvre Lyon la semaine prochaine, et les États-Unis, on a ouvert notre première boutique à New York en décembre dernier. Et on a quatre ouvertures qui vont s'enchaîner dans les
sur 2023
sur 2000 ouais fin 2022 début 2023 avec deux boutiques à Los Angeles et une autre à New York et une à San Francisco.
Comment vous appréhendez la dynamique économique globale actuellement? Est-ce que vous adaptez aussi votre positionnement prix? Vous regardez les réactions de vos consommateurs, j'imagine, vos clients. Quel est votre ressenti par rapport à cette ambiance-là? Et comment une marque premium, en tout cas vous, comment votre marque premium vous la positionnez?
C'est très compliqué. On est rentré dans une période excessivement compliquée. On a connu des grosses ruptures en termes de matières premières, surtout chez les lainiers, qui ont cru que leur business était mort après Covid et qu'on n'allait plus jamais porter de costume. Mm-hmm. Donc la folie du sweatshirt et du sweatpants, c'est gentiment tassé. Les gens sont repartis au bureau, les mariages sont revenus, les gens se sont mis à s'habiller de nouveau.
Donc vous voyez que les costumes et les vestes sortent en magasin.
Moi, j'ai jamais arrêté, même pendant Covid, je les vendais en ligne, si vous voulez. Donc quand nos boutiques étaient fermées, on vendait le même nombre de pièces. C'était toujours notre première catégorie, le tailoring. Donc ça a pas tellement changé. C'est pour ça que sortir de cette crise et avoir autant de ruptures dans l'approvisionnement est très compliqué. On a la chance d'être, on est fidèle, on a été très fidèle avec deux grandes maisons qui nous fournissaient en laine, qui ont connu de gros problèmes de livraison, qui ont eu des impacts assez importants pour nous. Notre plan d'approvisionnement a totalement changé. On commande maintenant de la matière première quasiment un an à l'avance. On a commandé nos productions d'hiver entre juillet et septembre pour des livraisons de septembre 2022. Pour des livraisons de produits qui seront entre juin et juillet 2023.
Il faut anticiper très très largement.
Énormément. C'est la seule façon d'être livré à temps. Aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, on a bien sûr une vague de hausse de prix qui arrive. Et il est hors de question que ce soit la qualité qui paye, parce que je pense que beaucoup de marques, malheureusement, vont se réfugier dans une baisse de la matière première. Or, on a construit notre réputation. J'ai construit Officine Générale sur la qualité et sur le rapport qualité-prix, sur ce que les Américains appellent de value. Mm-hmm. Donc, il n'est pas question qu'on se mette à baisser sur la qualité.
Et alors quelle est l'option?
Eh ben on travaille plus, on négocie beaucoup, on concentre et on arbitre ceux qui nous imposent des il y a une hausse qui peut être compréhensible. Et après, il y en a certaines qui ne sont pas compréhensibles. Mmh. Donc, quand c'est pas compréhensible, on déplace des productions chez ceux qui avec qui on négocie un meilleur tarif. On n'a pas le choix aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai une usine de chemise avec qui je travaille depuis 10 ans, qui joue le jeu et qui essaye de minimiser ses hausses. Donc, on continue à travailler avec lui. Il y a des usines de vestes et de pantalons avec qui j'arrive pas. Donc, je vais devoir arrêter pour. Donc, c'est énormément de travail. Et après, c'est un arbitrage entre le prix et la marge.
Oui. Et vous, dans cette période-là, vous faites ce choix-là. On imagine bien en voulant continuer quand même le développement de la marque. De manière globale sur l'offre, pas seulement sur du premium, mais sur l'offre, sur le développement du secteur. Vous anticipez des impacts de quel ordre sur cette période-là? Comment vous voyez le marché évoluer?
Pour le moment, on est en croissance et on n'a pas vraiment de répercussions. Déjà parce qu'on est sur des marchés nouveaux, donc les États-Unis où il y a beaucoup d'appétence pour la marque. Ensuite parce qu'on a la chance de vivre d'avoir 90% de notre chiffre d'affaires retail et sur Paris, une ville qui a gardé énormément d'attrait auprès de toute une clientèle étrangère assez haut de gamme, qui voyage beaucoup. On a aussi, pour la première fois depuis 22 ans, un euro-dollar à parité. Mmh. On est, à Paris comme moi, Paris est plein d'Américains qui sont très contents de pouvoir revoyager normalement et qui sont très contents de goûter, de dîner dans nos beaux restaurants et d'acheter nos vêtements. Donc, on est largement soutenu, ce qui nous avait fait défaut pendant Covid, où on avait une clientèle uniquement pendant 2 années de pandémie, une clientèle uniquement locale. On a retrouvé beaucoup, beaucoup d'Américains, les Japonais revoyagent, les Coréens aussi, manque que les Chinois. Donc, c'est très, très soutenu au niveau des étrangers. La part d'étrangers dans nos boutiques a largement augmenté. Aujourd'hui, on peut dire qu'on fait 2 à 35% de notre chiffre d'affaires avec une clientèle étrangère.
Oui, ce qui est intéressant de pouvoir s'appuyer sur ces clients-là.
Très intéressant. Mmh. Et après, on ne va pas se mentir, quand on vend, quand on vend des vestes à 475, 495, des pantalons à 300 euros, on parle à une clientèle qui n'est pas encore touchée par l'inflation et qui n'a pas, en tout cas, même si elle est touchée, qui n'est pas suffisamment touchée pour changer ses habitudes de consommation et son comportement.
Sur les grands projets à venir pour Officine Générale sur les 2 ans qui viennent, vous m'avez dit donc retail, ça veut dire que fin 2024 vous tablez sur combien de boutiques Officine Générale dans le monde.
Alors on est sur 2023 déjà, on sera à 18, 19 magasins à la fin 2023.
Ça commence à faire une belle flotte.
On était 6 il y a un an, ouais. Donc ouais, ça fait une belle flotte. Surtout des magasins qui ouvrent et qui sont dans les plans, c'est ce qui est très important. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de, enfin, on a ouvert New York, on a pris un petit immeuble où on a fait nos retail, showroom et, et bureaux. Donc c'est toujours, il y a pas de recette magique quand on ouvre, on a juste, il y a une partie de données, il y a une partie de chance. Il se trouve qu'on s'est pour le moment pas trop trompé sur nos emplacements, donc j'espère que ça va continuer. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup analyser, il faut être sur place. Moi, je me déplace. Là, je suis parti il y a 3 semaines. J'étais à San Francisco. J'ai passé une journée devant un emplacement. Je me suis assis sur un banc. J'ai regardé les gens qui passaient. J'ai tourné dans les restos autour. Il faut sentir. Je pense qu'on peut pas ouvrir aussi loin de nos bases si on sent pas. Et il faut pouvoir en quelques jours, en quelques heures, analyser et comprendre qui sont les gens qui passent, comprendre le flux, comprendre comment la rue vit, comment les enseignes qui sont autour. C'est très important et je l'ai fait partout où on a ouvert, je le fais et je passe pas mal de temps en général et j'y fais plusieurs fois avant de signer, avant de m'engager.
Vous déléguez pas sur ces sujets-là?
Non. Non, je délègue pas parce que je passe pas mal de temps dans les boutiques, donc je connais assez bien mes clients, je pense. Et quand je vois quelqu'un passer dans la rue, je sais à peu près s'il peut être notre client ou pas. Donc c'est quelque chose que je et j'ai, alors on en discute énormément. J'ai peut-être le final cut, mais il y a des boutiques que je n'ai pas signées parce qu'on me disait non, nous on n'y croit pas. Moi j'y croyais. Et à la fin, c'est l'arbitrage. J'écoute. C'est pas, je suis pas bien en tête dans mes choix. C'est la discussion est très très importante et l'échange et le partage est primordial dans le développement. On peut pas, il y a pas une vision et une idée et c'est pas j'ai tort et j'ai raison et vous avez tort. Ça existe pas. Donc c'est donc oui, développement retail américain, pas mal. Et là on a donc 4 boutiques qui vont ouvrir et on prépare. On va déjà les ouvrir.
Oui.
On va se laisser le laps de respiration. On sait très vite si une boutique fonctionne ou pas. Ça prend pas 3 ans. Hein. Vous savez, on a des business plans, on a des chiffres, on met des ratios et en fonction de ça, on sait très vite si on a le ratio ou pas.
On l'a dit, ça fait 10 ans que vous avez commencé l'aventure. Vous êtes là où vous pensiez aller il y a 10 ans. Vous avez encore envie, ça se voit. Mais la motivation est la même, l'envie est la même. Ou est-ce que ça a évolué? Et qu'est-ce que vous avez envie pour les 5-10 prochaines années?
Rien à. Enfin, se lever le matin et pas considérer qu'on a un travail et pas considérer qu'on doit aller travailler. Et une chance énorme. C'est ce que je répète à mes enfants et ce que je leur explique. Quand on a la chance de faire ce qu'on aime, on ne subit pas. C'est un métier qui demande, enfin, en tout cas, la façon dont je l'opère demande énormément d'investissement et de sacrifice personnel. Je sais pas, débrancher mon téléphone en 10 ans. Je travaille tout le temps, l'été, même si je suis en week-end, même si je skie, je suis au bord de la mer, je travaille. Il y a toujours quelque chose. Donc j'ai jamais coupé en 10 ans. Donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que il y a beaucoup de sacrifices personnels pour arriver et pour continuer à année après année. J'ai toujours envie parce que on est au cœur de l'actualité, on est au cœur de l'économie, on est confronté à des choses qu'on n'avait pas prévues. Il faut toujours se remettre en question et j'apprends tout le temps intellectuellement. Je trouve ça très intéressant. Je peux ma journée, c'est pas que choisir des tissus. Je choisis des tissus, je fais des essayages, j'essaye tous les produits qui sortent. Je discute avec des avocats, avec des banquiers, avec des promoteurs. On présente des biens, on présente des magasins. Je vais voir des usines. Je m'occupe de la scénographie d'un défilé. Je choisis de la musique. C'est large. C'est vraiment large.
C'est jamais le même métier
en fait. Sans des comptes de résultats avec d'associés.
Ouais.
C'est de la gestion créative. Donc c'est très enrichissant. C'est très dense. Et je dois prendre des décisions chaque jour, parfois importantes. Et on peut pas rester des heures et des jours à tergiverser. Donc il y a un côté aussi assez instinct. On doit être capable de décider rapidement une fois qu'on a les tenants et les aboutissants. Donc non, c'est je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et c'est surtout ça se passe bien. J'ai de la chance. Alors, je vous dirais pas la même chose si on était en difficulté financière et si la société se développait pas et si notre plan de développement était un échec. J'aurais pas du tout le même discours. Là, je pense qu'on rentre dans des choses plus dures et plus pénibles. Il se trouve que malgré un contexte économique difficile, on a toujours progressé sur les 3 dernières années et on fera notre plus belle année aujourd'hui, cette année. Donc oui, c'est tout ça est très motivant et donne envie de continuer. Oui.
Pierre Mao, on vous remercie. On vous souhaite que ça continue effectivement 2023 et les années d'après.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.